Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes philosophe, vous êtes essayiste. En 2002, vous aviez créé l'Université populaire de Caen et c'était à la suite du 21 avril qui avait placé Jean-Marie Le Pen au second tour. Aujourd'hui, Marine Le Pen est aux portes du pouvoir, mais vous, c'est plutôt sur Emmanuel Macron que vous concentrez vos critiques très vives, on va y revenir. C'est elle qui a changé ou c'est vous ?
D'abord, elle a quand même beaucoup changé, il me semble. Je trouve étonnant qu'on puisse faire porter les péchés du père sur la fille. Personne n'estime, par exemple, que Fabien Roussel soit coupable de faire partie d'un PCF qui a défendu le pacte germano-soviétique pendant 2 ans, c'est-à-dire qui a collaboré. C'est du passé. Le plus personne ne croit que les socialistes, par exemple, veulent en finir avec le capitalisme, comme Mitterrand le disait en 1974. Personne ne croit, par exemple, que les républicains soient gaullistes. C'est fini. Ils ont bradé la souveraineté nationale. Donc je pense qu'il y a une espèce d'extraterritorialité. Tous les partis politiques ont changé, sauf celui de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. Elle a quand même dit que la Shoah, c'était la plus grande catastrophe du XXe siècle. C'est quand même pas la même chose que le père qui parlait du Darfour crématoire, du détail, qui parlait même de la fournée en parlant de Patrick Bruel. Je veux dire, les gens qui veulent absolument ne pas voir que les choses ont changé, bougé, que le Front National s'appelle désormais le Rassemblement National, sont des gens qui...
Donc vous pensez que le Front National et le Rassemblement National, ça n'est pas la même chose et que le Rassemblement National a changé?
Bah évidemment, je comprends pas qu'on puisse le dire de tous les partis. Même par exemple, la Ligue communiste révolutionnaire ne s'appelle plus Ligue et elle ne s'appelle plus communiste révolutionnaire. Ça s'appelle
le nouveau parti
anticapitaliste. Non, c'est-à-dire que ils ont supprimé la faucille et le marteau et maintenant c'est un mégaphone qui remplace tout ça. Il faut faire de la philosophie politique ou il faut faire de l'histoire de la politique. Qu'est-ce qu'on fait à Sciences Po si on n'apprend pas ça? Le mouvement des partis politiques. On peut tout de même pas imaginer, par exemple, que Valérie Pécresse soit gaulliste, que Chirac même ait été gaulliste. Quand ces gens-là,
pourtant, ils le revendiquent. Hein.
Bah, évidemment,
ils
le revendiquent.
Il y en a que vous croyez, bah, d'autres que vous ne croyez pas.
Mais simplement, moi, je lis les programmes, j'écoute ce que les gens disent et je regarde ce qu'ils font. Je me dis effectivement qu'on n'est pas sur les mêmes terrains. Quand Jean-Marie Le Pen défendait les thèses de Thatcher ou de Reagan sur le terrain de l'économie, à l'époque, on supprimait les charges et on avait des salaires qui étaient entièrement versés avec le brut, je veux dire. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose.
C'est quoi l'extrême droite?
Ah ben ça c'est une bonne question, parce que si vraiment on fait de l'histoire pour le coup, et pas de l'idéologie, et pas de la propagande, si vraiment on fait de l'histoire, on s'en va lire Rebatté, on s'en va lire Brasillac, on s'en va regarder ce qu'était le fascisme français.
Quels seraient pour vous les critères qui définissent ce qu'est l'extrême droite ?
Écoutez, j'ai écrit un texte avec une dizaine de critères, je peux n'en prendre qu'un, c'est la violence par exemple, c'est la violence des rues, c'est le refus de la démocratie, c'est le refus de la République, c'est le refus de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on ne va pas, les fascistes ne sont pas, ou l'extrême droite ne va pas au bureau de vote en disant vous votez, si vous votez pour moi j'y vais, si vous ne votez pas pour moi j'y vais pas. Les fascistes ils disent mais on veut pas, ou les gens d'extrême droite, on ne reconnaît pas l'Assemblée nationale, on ne reconnaît pas les régimes de représentation démocratique habituels, on croit à la violence des rues, donc selon cette définition-là,
Marine Le Pen et le Rassemblement national, en participant aux élections de manière démocratique, ne sont pas d'extrême droite.
Bah évidemment, ça me paraît évident que si
vous
visez...
Est-ce qu'il y a d'autres critères où ils cochent quand même la case?
Je viens de vous en donner, là. Je veux dire, c'est
vous en avez choisi un.
Non, je vous ai dit le refus de l'Assemblée nationale, le refus de la démocratie, le refus de la République, la violence, l'idée qu'on ne reconnaît pas les élections, enfin, l'antisémitisme. Vous voyez de l'antisémitisme chez cette femme qui nous dit que la Shoah est la pire catastrophe du XXe siècle. C'est pas la même chose que quelqu'un qui vient nous dire que les chambres à gaz sont en plein détail de l'histoire. Si les gens veulent imaginer que c'est la même chose, il y a une confusion mentale qui est dommageable. Faut pas s'étonner qu'un quart des gens ne votent plus. Si on est en train de nous dire que, qui le disait l'autre jour, Darmanin, si Marine Le Pen passe, les pauvres vont mourir.
Enfin, il a dit ça lors d'une réunion publique, en effet.
Mais Alice Coffin dit exactement la même chose pour les femmes ou les LGBT.
Il a dit les riches, si on va jusqu'au bout, son expression était les riches vont maigrir, les pauvres vont mourir.
Oui, c'est ça, bah, ils vont mourir. Quand des gens disent ça et qu'ils se mettent à parler d'extrême droite ou de fascisme, je ne les écoute plus. Faisons de l'histoire.
Enfin, vous êtes quand même sacrément injurieux aussi. Hein.
Politique.
Je voudrais quand même qu'on se plonge un tout petit instant dans votre livre.
C'est pas injurieux de parler de fascisme.
Le titre de votre livre, vous avez observé le quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous en tirez un livre qui est une sorte de journal de bord. C'est publié chez Albin Michel. Ça s'appelle Foutriquet. Pourquoi l'injure ?
C'est pas une injure d'abord.
Injure, Foutriquet.
Alors vous n'avez même pas lu la quatrième de couverture de ce livre.
Si, justement, j'ai lu, et non seulement la quatrième, mais également le livre. Vous citez Jules Vallès, qui parle de Foutriquet à propos du ministre tiers, mais ça n'empêche pas que c'était une injure.
Écoutez, je mâche le travail des journalistes, qui pour le coup n'ont pas besoin de lire que le titre, ils peuvent aussi lire la quatrième de couverture, et je dis très précisément que Foutriquet était le nom que les communards donnaient à Adolphe
Thiers. Au boucher de la commune.
C'est effectivement le cas. Il y avait des flots de sang avec Galifet qui a massacré des pauvres personnes qui ne faisaient que réclamer.
Est-ce que vous diriez d'Emmanuel Macron que c'est un boucher ?
Je suis en train de répondre à votre question. Et il y a eu un moment donné où il nous a dit, Emmanuel Macron, concernant la commune et les communards, que la République s'était repliée, la véritable République, et s'était repliée à Versailles et chez les Versaillais. C'est-à-dire, et je fais de l'histoire, ça ne s'appelle pas de l'insulte, je dis simplement que Macron nous dit que la question sociale aujourd'hui, quand elle est portée par exemple, Jean-Luc Mélenchon, mais surtout par les Gilets jaunes, eh bien, on est dans un remake des communards, et que la vraie République, elle est à l'Élysée. Cet homme qui nous dit « venez me chercher », quand on vient le chercher, il s'en va, il a peur. Il avait quand même fait savoir qu'ils viennent me chercher. Souvenez-vous, la maison d'Amérique latine.
Tout à fait.
Et quand les Gilets jaunes disent « Ah, bonne idée, on arrive », alors là, il y a un hélicoptère dans l'Élysée, on est prêt à partir, peut-être probablement à Versailles. Et c'est cet homme lui-même qui nous dit que dans la commune, il aurait pris le parti d'Adolphe Thiers. Donc je dis, Jules Vallès disait de Thiers et de quelques autres le disaient aussi, que Thiers était un foutriqué. Je me dis, bah, ça marche très bien. Puis c'est souriant un peu. Non, je ne sais pas si vous appelez ça l'insulte, mais.
Je ne sais pas si c'est souriant.
C'est voltairien.
C'est très acide.
Oui, mais ne croyez pas qu'il est acide. Lui, en disant qu'il y a des Gaulois réfractaires avec lesquels on ne peut rien faire, qu'il suffit de traverser la route pour trouver du boulot, qu'il y a des gens qui sont rien.
Croyez-vous qu'un autre président trouverait grâce à vos yeux ?
Non.
Que Marine Le Pen au pouvoir trouverait grâce à
non,
vos yeux ?
Non, moi je.
Finalement, personne ne trouverait grâce
si,
à vos yeux.
Vous allez un peu trop vite. Je suis anti-maastrichien. Moi, le problème, c'est pas.
C'est pour vous d'ailleurs Macron. Le grand clivage. Hein. Vous y revenez dans ce livre.
Voilà.
Le clivage, c'est entre les maastrichiens et les anti-maastrichiens. C'est et d'ailleurs, à ce même micro, il y a quelques mois, vous disiez que de toute façon, l'élection était jouée d'avance. Je précise même que vous aviez dit ne pas voter, puisque vous pouviez déjà prédire qu'un maastrichien allait gagner. Oui. Et en l'occurrence, vous disiez soit Emmanuel Macron, soit Valérie Pécresse.
Oui, ça peut être aujourd'hui Marine Le Pen. Alors à l'époque, elle venait de démarrer. Elle était dans les intentions.
Ah, vous la mettez dans le même camp, les maastrichiens.
Bah, évidemment, elle nous a dit. Il y a un an, j'ai fait un article qui s'appelle « Le Front National n'existe plus », il y a un an, sur le site de Front Populaire, assez long, c'est très précis, où je dis effectivement qu'elle renonce à l'euro, à l'Europe, qu'elle renonce à Schengen, qu'elle renonce à toucher à la Cour européenne de justice.
Elle renonce à toucher à tout cela.
Oui, elle renonce, oui pardon. Et que ça fait pour moi le maastrichtien, qu'elle est en train de nous dire, hein, sur la peine de mort, on va voir, sur la question du voile, j'ai déjà changé. Donc c'est ce que j'appelle la jurisprudence Tsipras, vous savez, ce grec qui avait été élu pour un programme et qui, quand il est arrivé au pouvoir, a dit « Ah ben finalement, je ne suis pas très sûr que le programme, etc. » Le FMI lui avait dit « On va vous aider à changer d'avis. » Et puis l'affaire a été réglée. Donc il y a un franc maastrichtien qui est Macron. Et puis il y en a une qui se dit « Finalement, si je veux être un peu crédible, il faut que je le sois moi aussi. » Et elle est devenue comme Chirac.
Donc vous voilà trahi en quelque sorte.
Moi, je ne suis pas dans des logiques de trahison. J'appelle ça l'évolution. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, donc,
peut changer.
Ah oui, vous me dites « Elle ne change pas. » Puis après, vous me dites « Elle est dans la trahison. » Non, je vous dis « Elle évolue comme tout le monde évolue. » Comme vous, comme moi, comme les gens qui nous écoutent, tout le monde évolue. En 20 ans, l'histoire n'est pas la même. Et on pense en fonction du réel tel qu'il est.
Michel Onfray, vous venez de dire, je vous ai dit, si c'est un maastrichtien qui gagne, ce sera plutôt Emmanuel Macron. Vous avez dit, ou Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire que vous considérez aujourd'hui, à quelques jours du second tour de la présidentielle, que Marine Le Pen peut gagner ?
C'est difficile parce qu'il y a vraiment le parti unique. Hein. Vous savez, le parti unique, c'était le truc du régime dictatorial, jadis. Aujourd'hui, c'est le parti français, hein. Je veux dire, le parti des maastrichtiens. Ah, alors là, on les a tous. On a les évêques, on a les athées, on a le MEDEF, on a la CGT.
Eux ne se reconnaissent pas, dans ces cas-là, dans Marine Le Pen. C'est-à-dire, contrairement à vous, ils ne la mettent pas dans le même sac, puisqu'il y a une sorte de barrage qui se réinstalle.
Oui, ben, les étudiants à la Sorbonne disent des choses intéressantes quand ils disent un peu que c'est la même chose.
Ils disent ni Macron. Ni Le Pen, révolution.
Oui, ils disent c'est la même chose. Alors bon, après sur la révolution, il faudrait qu'on s'entende quand ils sont dans la logique du climat et des deux points d'augmentation du climat. Je suis pas sûr que ce soit un horizon civilisationnel. Mais enfin, le problème n'est pas là.
Ils ont raison. Vous vous sentez proche de cet appel des étudiants de la Sorbonne qui ont occupé la Sorbonne quelques jours.
Moi, je fais partie du quart des Français qui n'a pas voté justement parce que. Et j'estime, enfin, je vais pas dire on estime, je vais pas parler pour ceux qui n'ont pas voté, mais j'estime effectivement que les dés sont pipés. C'est tout, je dis, mais on fait semblant de nous dire, allez voter, dites-nous ce que vous souhaitez véritablement, alors qu'en fait, on n'a pas véritablement le choix. Et vous voyez comment l'un et l'autre finissent par dire tout et n'importe quoi. Même Macron, qui commence à dire sur les retraites tout au départ, ah mais ça, ce sera un cap, et qui après dit finalement, le cap, j'en change.
La retraite à 65 ans, qui au fur et à mesure d'une journée de déplacement a été légèrement assouplie, plutôt dans la forme, hein, parce que quand on regarde dans le fond, les 65 ans restent un cap, ça vous ne pouvez pas le lui reprocher finalement.
Si, moi je pense que ce personnage est prêt à tout pour aller chercher des voix chez Jean-Luc Mélenchon. Il a fait exactement la même chose avec les écologistes. Et Marine Le Pen fait très exactement la même chose avec d'autres électeurs. Donc notamment ceux de Valérie Pécresse. Et c'est ça qui est assez pitoyable, de les voir tous les deux faire une espèce de course en disant « Est-ce que je pourrais pas aller choper ceci ou attraper cela ?» C'est honteux, c'est pas ça la, c'est pas ça la, la
Vous politique. Parliez à l'instant des étudiants de la Sorbonne sur la question, en effet, de tous ceux qui se lèvent contre un candidat ou contre l'autre, principalement contre Marine Le Pen. Seuls, en effet, ces poignées d'étudiants ont dit publiquement ni Macron, ni Le Pen, révolution. Ils l'ont fait avec une forme de saccage de l'intérieur de l'université de la Sorbonne. Vous comprenez cette violence?
Non, je trouve pas ça acceptable. Mais en même temps, ils ont la fraîcheur de leurs 20 ans et l'inculture de leurs 20 ans. Et ce sont quand même des gens qui sont acculturés. Il y a quand même une espèce de processus dictatorial aujourd'hui. La télévision, les médias, l'école où on leur apprend un certain nombre de choses. C'est un peu normal qu'ils commencent à dire ce qu'on leur a raconté depuis une dizaine d'années. Qui n'était pas comme ça à 20 ans? Qui a une pensée autonome, intelligente et indépendante à 20 ans? Il n'y en a pas beaucoup. Mais juste comprendre que ça ne marche plus, cette espèce de jeu perpétuel, la verre et le revers de la même pièce, ça recommence 5 ans plus tard, encore Macron, encore Le Pen.
Vous avez une aversion pour la jeunesse. Je trouve que dans votre livre, une des critiques qui revient régulièrement sur le président Macron à vos yeux, c'est sa jeunesse.
Non, c'est son jeunisme, c'est pas la même chose. Il a le droit d'être jeune. Mais je veux dire, cette idée de dire que la jeunesse a toujours raison parce qu'elle est jeune, je trouve que c'est une catastrophe. Et moi, je crois à l'initiation, je crois à l'apprentissage. Je ne pense pas, par exemple, qu'un instituteur en sache autant, un professeur des écoles, pardon, en sache autant qu'un de ses élèves. Je pense effectivement qu'il y en a un qui sait, l'autre qui ne sait pas, et qu'on doit transmettre pour que l'enfant puisse être élevé, au sens noble du terme. Aujourd'hui, on pense très exactement l'inverse. Donc, vive les jeunes, vive les marges, il n'y a plus de centre, il faut absolument... Je dis non, moi j'ai au contraire un grand respect pour les jeunes. J'ai eu la chance d'être un jeune perdu et d'être sauvé par mon vieux maître, Lucien Gerfagnon, qui m'a initié, qui m'a montré une voie, une direction. Et je défends ce genre de modèle. Non, j'ai même pas de la pitié, mais j'ai pas de détestation pour la jeunesse, sûrement pas. Je pense au contraire qu'elle a une espèce de fraîcheur et que cette fraîcheur, elle est maltraitée par le dispositif de l'éducation, de la télévision, des médias, de ce que j'appelais le parti unique maastrichtien.
Mais vous êtes aussi très souvent dans ces logiques de médias, dans ces logiques de discours, vous utilisez aussi les outils d'aujourd'hui.
Les logiques de médias, en gros, j'ai quoi, le droit de venir vous voir si je dis ce que vous pensez, et si je dis pas ce que vous pensez.
Pas du tout, je vous ai jamais demandé ce que vous alliez dire avant de vous donner la parole.
Je vous avais vu qu'il y avait un point d'interrogation, peut-être puis-je le faire un peu plus entendre, mon point d'interrogation. Mais on nous dit, vous devriez être contre les médias, vous devriez vous taire, c'est comme ça qu'on vous aimerait. Si vous étiez silencieux, qu'est-ce que vous seriez formidable? Je ne dis pas vous.
Mais j'en ferais ça, franchement, c'est un discours que je n'entends pas. Mais vous êtes en train de me dire... Je ne peux pas entendre, vous êtes un des auteurs français les plus vendus, y compris en France et à l'étranger, ce qui veut bien dire que le fait que vous ayez un discours anti-média, en aucun cas, ne vous porte préjudice, au contraire.
Ça justifie
qu'on m'invite. Vous êtes plutôt mainstream en disant que les médias, c'est pas terrible.
Vous savez, je ne suis pas dupe, je suis la loi.
C'est pas être rebelle aujourd'hui.
Non, mais je n'ai pas dit que j'étais rebelle. Moi, je ne l'ai pas dit, au contraire d'autres. Non, je joue le jeu de le rôle de l'alouette dans le pâté d'alouette. On dit, vous avez vu comment on est démocrate, on invite même des gens comme on ferait. Alors, il n'y a pas 36 possibilités. Il y a des endroits où je suis interdit. Le service public, je suis franchement interdit. Il n'y a pas de problème. Ou alors, quand je suis autorisé, on me dit, on va mettre quelqu'un en face de vous. Puis un deuxième, puis un troisième. Vous faites un plateau où il y a parfois 3 ou 4 personnes qui pensent la même chose. Je dis, vous avez vu comment
on est démocrate. Et vous le voyez ce matin sur AMC BFMD, c'est l'inverse. Nous sommes seuls, Michel Onfray, oui, vous et moi, et la contradiction.
Je dois toujours rendre des comptes en disant pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce que je suis pas un peu nazi sur les bords? Un petit peu fasciste? Faudrait quand même qu'on sache, etc. Il y a plein d'intellectuels que vous invitez, pas vous personnellement, mais à qui vous déroulez le tapis rouge sans que jamais il ne soit posé des questions de légitimité existentielle.
Moi, j'ai le sentiment de poser ces questions-là avec franchise à tout le monde.
Je ne vous écoute pas toujours.
Michel Onfray, vous devriez m'écouter plus, vous devriez écouter plus à AMC et BFM TV.
Je réponds à vos questions.
Je voudrais vous poser la question aussi, Michel Onfray, des corps intermédiaires. On l'a vu cette semaine. Les artistes, les sportifs, certains intellectuels qui appellent à faire battre Marine Le Pen. Ça veut dire quoi des sportifs? Quand vous me dites tout de suite des sportifs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui se taisent, ils pensent quoi? Ceux qui s'expriment systématiquement pour faire barrage au Front National. Est-ce que vous estimez que ceux qui ne parlent pas, peut-être au fond, ne veulent pas prendre parti pour Macron ou ne veulent pas prendre parti dans cette élection?
Est-ce que vous voulez pas voir la différence entre les et des?
Si, au contraire, dites-moi justement ce que vous voulez dire derrière.
Bon, je veux bien qu'on soit obligé d'expliquer, mais enfin, c'est un peu dommage, mais quand vous dites les artistes, les sportifs, non, je ne suis pas du tout des artistes, 500 je crois, des sportifs, et pas tous. Donc il y a un moment donné où il ne faut pas imaginer que parce que 3 ou 4 têtes d'affiche qui ne veulent surtout pas avoir de problèmes dans leur carrière, disent ce qu'ils disent en défendant la démocratie et la République, en nous disant qu'ils sont des grands antifascistes. Je ne sais pas ce qu'ils auraient fait ces gens-là en 40, 41, 42, pas sûr. Il serait allé à Londres, mais enfin bon, je ne vais pas faire de la politique fiction. Je dis simplement que ce n'est pas les quelques-uns que vous nous montrez, qu'on voit en permanence, qui permettent de dire que les artistes soutiennent Macron. Que les hommes de cinéma, les hommes de spectacle, les intellectuels, les écrivains, etc. Quand quelqu'un comme Marcel Gauger pense, quand même assez rare chez les intellectuels. Quand quelqu'un pense...
Il dit comme vous, hein, que Marine Le Pen n'est pas son père, que le Rassemblement National a changé et qu'il faut l'entendre.
C'est quand même bizarre qu'on puisse pas dire une chose pareille. Vous vous rendez compte, les Juifs étaient coupables d'être Juifs, quoi qu'ils fassent, parce qu'ils étaient nés de parents juifs. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas coupable des bêtises que vous auriez pu faire, vous êtes coupable de votre père.
Pour vous, c'était un vrai retour en arrière, donc.
Un retour en arrière de...
Non, mais quand vous comparez ça avec l'assignation à résidence...
Personnelle. Moi, je suis coupable de ce que je fais. Je ne veux pas être coupable de ce que mes parents auraient fait, par exemple. Non, pas plus que je voudrais être un héros parce que mes parents auraient été des héros. Cette façon d'imaginer que on aurait eu des parents glorieux, donc on serait soi-même glorieux. Mais non, on est glorieux si on l'est soi-même, si on a fait ce qu'il fallait.
Mais Michel Onfray, le fait de s'abstenir, est-ce que ce n'est pas une forme de lâcheté ?
Je ne veux pas parler de lâcheté moralisée, je vous dis simplement que ça ne sert à rien. Depuis 2005, on vous fait savoir que ou vous votez dans le bon sens, et à ce moment-là, on écoute votre vote, ou vous votez dans le mauvais sens, et on balance tout à la poubelle. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a perdu toutes les élections pendant 5 ans. Toutes. Il les a toutes perdues. Il a même dit, si je perds les européennes, ça c'est vraiment une catastrophe. Il a perdu les européennes. Qu'a-t-il dit ? Perdre de si peu, ça s'appelle gagner. Et tout le monde a dit, oui, formidable. Et sur ces endroits-là, 95% des gens disent,
est-ce que c'est pour ça qu'il y a des fractures ?
Je finis.
Allez-y.
Et on avait dit qu'elle aurait des régions, on ne les a pas eues. Enfin bon, voilà, c'est quand même... Enfin, non.
Aujourd'hui, il promet, à l'inverse, la proportionnelle, peut-être même intégrale.
Il promet ce qu'on veut. C'est-à-dire que s'il descend...
Ça, pour le coup, vous n'y croyez pas.
Torse nu en tracteur, l'Élysée pour être élu, on lui dit, fais-le et tu auras l'Élysée, il ira. Et Marine Le Pen aussi. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter cette démagogie, de croire cette démagogie. Le général de Gaulle disait, je perds des élections, je m'en vais. Je remets mon mandat en jeu. Où Mitterrand dit, je perds, je reste. Là où Mitterrand dit, quand je perds, je reste. Là où Chirac dit, quand je perds, je reste aussi. Et j'appelle ça la cohabitation. Vous allez voir que s'il perd les élections législatives, il va cohabiter aussi, Macron.
Michel Onfray, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Ça s'appelle pas la République, ça. Ça s'appelle pas la Ve République. Ça s'appelle sûrement pas être gaulliste.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réconcilier cette France qui est quand même très fracturée, avec trois Frances en gros, hein, qui ont quasi voté pour l'un ou pour l'autre. Il y a la France rurale qui aurait voté Marine Le Pen, il y a la France des centres-villes et de l'Ouest qui a voté plutôt pour Emmanuel Macron, et puis il y a la France des quartiers périphériques, populaires, des quartiers qu'on appelle banlieues, qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Comment on fait pour que ces trois Frances-là se parlent et se réconcilient ?
Quatre, vous avez oublié, c'est qu'ils n'ont pas voté. Ah ben oui, ça fait quand même un quart des Français. Un quart des Français qui ne disent pas « je suis lâche et je ne vais pas voter ». Je suis courageux, je vais
mais
voter.
Mais qui sont moins ancrés géographiquement, vous le reconnaîtrez.
Pardon ?
Qui sont moins ancrés géographiquement, vous me le reconnaîtrez, la question de l'abstention.
On n'en sait rien, plus. Ça, vous savez, les politologues qui s'en viennent nous faire des cartes qui sont totalement illisibles pour nous expliquer que...
Non, mais vous adorez la France, la question des campagnes,
oui, j'adore
des
la
villes,
France. J'adore la ruralité, j'adore les paysans, j'adore la campagne, j'adore les gens de bon sens, j'adore ces gens qui ne sont pas allés voter, non pas parce qu'ils étaient lâches, alors que le courage consisterait aujourd'hui à voter Macron quand on a voté Mélenchon au premier tour. Si c'est ça le courage, alors franchement, oui, je veux bien être lâche. Je dis simplement que il y a des gens qui ont compris quand même qu'on se moquait d'eux. Qu'est-ce qu'il faut faire, me disait tout à l'heure, mais revenir à la Ve République. La Ve République, elle est morte, elle n'existe plus depuis le traité de Maastricht, depuis qu'on a perdu notre souveraineté. Quand le général de Gaulle dit c'est 7 ans et c'est en plus de c'est un septennat et en plus des législatives qui vont nous permettre de voir si on veut toujours de ma politique ou pas. Si je perds les législatives, je démissionne, je m'en vais, je change de premier ministre, etc. C'était un jeu, un équilibre démocratique et républicain qui laissait au peuple sa place. Où il est le peuple aujourd'hui ? Il est celui qu'on séduit, qu'on cherche à flatter. Il y en a un qui dit on va supprimer le permis à point, l'autre qui dit ah, je m'en vais voir les chasseurs. Cette espèce de mépris du peuple, comme si c'était des beaufs qui roulaient.
C'était d'un côté, Michel, et c'était oui, Emmanuel Macron de l'autre à qui vous faisiez référence. Mais vous venez de dire quand même une phrase, vous venez de dire voter Macron quand on a voté Mélenchon, est-ce que c'est pas ça la lâcheté ?
Non, je dis, vous m'avez dit, est-ce que ça n'est pas lâche, vous, de ne pas voter ? Je vous dis, j'ai pas l'impression que quand on a voté Mélenchon au premier tour et qu'on vote Macron au deuxième tour, ça s'appelle le courage. Pas exactement dit ce que vous dites que je dis. Hein. Je dis simplement que je ne pense pas en termes de morale. Il n'y a pas de lâcheté à dire, moi, quand on me dit vous allez jouer à un jeu, mais il n'y a rien à gagner, je ne joue pas à ce jeu. Ben non. Le jour où effectivement les élections seront prises en considération et on dira allez voter, et quand vous aurez dit on veut, on ne veut pas, eh bien on fera ça parce que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, alors à ce moment-là le contrat social sera refait. Il n'y a pas de contrat social aujourd'hui, il y a une espèce de mensonge perpétuel, démagogique et populiste. Peu politiste de droite et de gauche, je veux dire, les deux, et Macron et Le Pen aujourd'hui sont dans une démagogie incroyable pour essayer dans la surenchère de récupérer qui les voit de.
Vous êtes toujours inscrit sur les listes ?
Oui, je suis inscrit, oui.
Ça veut dire que vous vous laissez quand même peut-être la possibilité à un moment d'une forme de sursaut, d'une
bien
forme.
Bien sûr, moi je suis.
Qu'est-ce qui pourrait tout d'un coup, dimanche prochain le matin,
non,
faire
rien.
Que vous sortiez de chez vous et que vous alliez voter ?
Non, rien. Je veux dire, on pourrait même faire de la casuistique en disant voilà, tout le monde a voté, il n'y a plus qu'une voix. c'est vous qui allez faire la différence, je n'irai pas non plus. J'ai dit très précisément, mais logique, c'est le vieux gaullisme de gauche, si vous voulez mettre un mot là-dessus. C'est le vieux socialisme proudhonien, c'est très exactement la même chose. Donc si on revient à ses fondamentaux, alors oui, la politique, j'y retournerai et je voterai comme tout un chacun.
Aujourd'hui, et donc vous êtes toujours inscrit pour que peut-être un jour...
On ne sait jamais.
On ne sait jamais. Mais Michel Onfray, merci d'être venu répondre à mes questions ce matin, à moins d'une semaine. Donc...